France Culture.
Et bienvenue dans la deuxième partie des midis. Tout à l'heure, à 13h, je recevrai le musicien et chanteur Dafer Youssef. Mais c'est l'heure maintenant du Point Culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. George Sand, dont nous commémorons cette année les 150 ans de la mort, aurait maille à partir avec le Pinocchio de Collodi. Oui, oui. C'est en tout cas le parti pris de l'exposition qui se tient au musée de l'illustration jeunesse de Moulins. Et pour donner corps à ce rapprochement, l'exposition bénéficie d'un prêt exceptionnel de la maison de George Sand. Un ensemble de 8 petites huiles sur toile réalisées par Maurice Sand, représentant des comédiens italiens. Illustrer la circulation des idées entre France et Italie au XIXe siècle grâce à la figure de Pinocchio, c'est le dossier du Point Culture du jour. Emmanuel Martina Dupré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commissaire de l'exposition L'illustre Pinocchio qui se visite au musée de l'illustration jeunesse à Moulins à partir du 7 février et jusqu'au 21 juin. Et c'est l'occasion pour nous de revenir sur cette figure de Pinocchio car au-delà de l'adaptation Disney qu'on connaît bien de 1940, l'exposition, elle, permet de redécouvrir le Pinocchio original de Collodi. Comment vous avez fait ce transfert-là entre cette figure de Disney peut-être connue du grand public et la figure originale qui est quand même pas tout à fait la même?
Le propos de l'exposition, c'est effectivement d'interroger cette figure de Pinocchio qui est un personnage qui appartient à notre imaginaire collectif et qui est ouvert à d'infinies explorations, qu'elles soient philosophiques ou artistiques. On propose aux visiteurs, quand ils arrivent, de découvrir un film qui explique en fait la situation de la Toscane dans laquelle Collodi, entre 1881 et 1883, situe donc les aventures de son personnage. Et c'est une Toscane qui est, pour les enfants et pour les petites gens, une Toscane douloureuse et qui est très éloignée, effectivement, de la version Walt Disney de 1940, qui est une version très édulcorée. Le texte de Pinocchio, tel que l'a voulu Collodi, est un texte cruel qui veut montrer, sans beaucoup de détours, en fait, la difficulté d'exister pour des enfants qui, parfois, étaient vendus par des parents pour une bouchée de pain, qui devaient travailler. Voilà, c'est un personnage qui va traverser quand même des épreuves extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses, pour pouvoir devenir le petit garçon. Voilà. C'est un livre aussi à dimension. Alors, certains disent que c'est un conte, d'autres disent que c'est une fable, c'est un roman, c'est un feuilleton, mais c'est un ouvrage, en tout cas, qui retrace des aventures difficiles d'un pantin, et on sent tout de suite à la relecture du texte qu'il y avait une dimension morale, parfois tragique et toujours touchante en tous les cas. Dans le texte original, effectivement, originel de Collodi, écrit donc à la fin du 19e.
Alors, une des thèses que vous avancez dans cette exposition, c'est un lien potentiel entre Carlo Collodi et George Sand. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette hypothèse qui semble quand même très intrigante comme ça? Quels éléments historiques ou littéraires étayent cette influence possible?
Alors, on doit cette hypothèse à Jean Perrault, qui était un comparatiste rattaché à l'université Paris 13. Et Jean Perrault avait écrit un ouvrage sur, justement, cette possibilité d'un lien entre la Dame de Nohant et Carlo Collodi. Et on a interrogé une universitaire, Martine Vatrelo, qui est associée au CNRS de Lyon et qui est spécialiste de George Sand, sur cette possibilité d'un lien entre les deux. Alors, il y en a un qui naît en 1804, enfin il y en a une qui naît en 1804, c'est George Sand. Il y a Collodi qui naît en 1826, dont on fête cette année le bicentenaire de la naissance. Et puis, il y a, entre cette figure majeure qu'est George Sand au 19e, qui est connue pour son œuvre littéraire prolifique, mais aussi pour son engagement social et républicain, il y a des liens entre cette figure et l'Italie. Elle y fait 2 séjours, elle y situe un certain nombre de ses romans. On sait qu'elle avait une correspondance très fournie avec Giuseppe Mazzini, qu'elle s'est intéressée à l'unification de l'Italie. Et que probablement Collodi l'a lu. Donc elle traduisait de l'italien et lui, il traduisait du français. Il y a des possibilités en tous les cas de passage d'idées, de passage de convictions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient humanistes, qu'elles soient sociales, entre des deux côtés des Alpes. Et puis il y a dans les textes de George Sand effectivement des évocations, soit du menuisier, le personnage du menuisier. En fait, il arrive par exemple en dans Le Compagnon du Tour de France, qu'elle écrit en 1840. C'est un pauvre menuisier qui donne le charme de l'enfance et une belle puissance artistique à une figure de bois. Ça pourrait être le personnage qui a inspiré à Collodi celui de Geppetto. Et puis un petit peu plus tard, il y a aussi l'histoire du véritable Gribouille, qui est un texte qu'elle écrit et que son fils Maurice Sand va illustrer en 1851. Et là, on a un personnage, un enfant, alors qui est un peu plutôt la figure du sot, mais qui va se transformer à la fin pour échapper au bourdon et pour échapper à, parce qu'il va traverser lui aussi des épreuves très très difficiles, et pour échapper à tout cela, il a une marraine, la fée, qu'on appelle la demoiselle bleue, enfin que George Sand appelle la demoiselle bleue, qui peut être une libellule. Et cette marraine fée, elle va transformer Gribouille en un morceau de chêne pour qu'il puisse échapper. Voilà. Donc ce serait presque la figure inversée de Pinocchio, qui lui naît d'un morceau de bois et qui devient un petit garçon après avoir traversé de multiples épreuves. Voilà.
Alors, dans cette exposition, vous avez également invité des illustrateurs contemporains et non des moindres. Comment ils analysent l'évolution symbolique de Pinocchio dans l'imaginaire collectif ? Est-ce que les dessins, les illustrations qu'ils proposent montrent une réappropriation ou au contraire perpétuent certains archétypes ? Qu'est-ce qu'on y voit en fait sur ces dessins-là ? Contemporain.
Alors les deux. Les deux. C'est vrai que certains illustrateurs se sont surtout intéressés à creuser ce texte qui est, comme je le disais tout à l'heure, un texte avec d'infinies possibilités d'exploration philosophique et artistique. Lorenzo Mattotti, par exemple, bon, qu'on ne présente plus, enfin, que certains reconnaissent, j'allais dire, plutôt maintenant quand il fait une image pour la Mostra de Venise ou pour le Festival de Cannes ou plus récemment encore pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, avec cette fluidité des formes, la chaleur de ses pastels. L'intention de Lorenzo Mattotti, c'est vraiment de fouiller le texte et de se dire, il y a probablement quelque chose que les mots n'ont pas dit. Mattotti disait, lors d'une interview à l'occasion de l'exposition qui avait lieu au Centre Pompidou sur la bande dessinée, il n'y a pas si longtemps, il disait, les mots c'est froid, et l'image c'est chaud, et on peut dire peut-être autre chose, et certainement des choses encore plus nuancées avec les images. Par contre, un artiste comme Tomonori Taniguchi, qui est un artiste originaire d'Osaka, qui s'empare du texte de Pinocchio, alors lui, il fait un pas de côté et il décide que Pinocchio serait en fer, et que Pinocchio est rouillé, et que ça n'est que par, là aussi, un travail sur la bonté, un travail sur le faire bien, qu'il va enlever tout ce qui est de l'ordre de la corrosion, tout ce qui l'abîme, tout ce qui l'empêche de bouger, et retrouver une liberté de mouvement. Là, il y a effectivement deux versions, enfin deux interprétations très très éloignées l'une de l'autre, mais qui montrent la richesse de l'illustration, cet art de la variation sur un texte.
Merci beaucoup Emmanuel Martina Duprat. Je rappelle que l'exposition L'illustre Pinocchio se visite au musée de l'illustration jeunesse à Moulins jusqu'au 21 juin. Merci.
Merci à vous, merci beaucoup.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, deux auteurs ont eu la surprise de voir leur nom apposé sur des livres qu'ils n'ont pas écrits. Marie va avoir un micro.
Ça y est, voilà, il vient de s'allumer. Mais oui, alors c'est ce que révèle Libération dans une enquête dans laquelle on apprend que Bernard Marc, médecin légiste, et Richard Marlet, ancien policier, ont été désignés comme auteurs de deux livres traitant de faits divers. Le premier aurait donc signé La disparition du petit Émile entre science et enquête, le récit croisé d'une affaire qui a bouleversé la France. Et le second, L'énigme Grégory, regard croisé du médecin légiste et de l'identification judiciaire. Mais aucun d'eux n'a rédigé ces ouvrages, alertés par des proches. Ils ont fait appel à leur avocat afin de demander à la maison d'édition MASK, qui commercialise ces livres, de les retirer de la vente. L'éditeur s'est alors justifié en invoquant une erreur matérielle avant d'assurer qu'aucun livre n'avait été pour le moment ni imprimé ni même rédigé. Le mystère reste donc entier.
Et pour finir, Marie, un dessin de Michel-Ange vient d'être vendu aux enchères.
Cette étude de pied de taille relativement modeste, 13 cm par 11, a été vendue hier 23 millions d'euros à New York par la maison de vente Christie's. Un record pour un dessin de Michel-Ange, car la quasi-totalité des 600 esquisses du maître italien connu à ce jour se trouve dans des musées. Selon l'expert, il s'agirait d'une étude réalisée aux alentours de 1510 pour l'un des personnages du Jugement dernier, peint sur le plafond de la chapelle Sixtine. Cette fresque de 180 mètres carrés considérée comme le chef-d'œuvre de l'artiste est depuis peu en travaux de restauration et ce pour 3 mois afin de lui rendre son éclat. Mais la chapelle Sixtine, elle, reste accessible.
Merci Marie, on se retrouve lundi.
Mais oui, bon week-end.
Bon week-end, on se retrouve lundi pour de nouvelles actualités culturelles. Mais tout de suite, il est 13h sur France Culture.